Chapitre 18. Un poil près, elle y était. Presque, mais pas tout à fait. Elle n'avait pas raté son entrée, estimait Caise. L'attitude correcte, c'était une chose qu'il savait percevoir, une chose qu'il aurait pu discerner dans la posture d'un autre cow-boy penché sur sa console, les doigts volant sur le clavier. Elle avait tout ça, la présence, les gestes. Et elle avait su les mobiliser pour son entrée. L'immobiliser autour de la douleur dans sa jambe pour descendre l'escalier de trois djennes, comme si elle était dans ses murs, le coude de la main maintenant, l'arme plaquée contre la hanche, l'avant-bras levé, le poignet détendu, faisant osciller le canon du flécheur avec la nonchalance étudiée d'un bretteur de la Régence. C'était une performance. C'était comme le point culminant d'une vie entière d'observation, de cassettes d'arts martiaux, les séries bon marché, celle-là même qui avait nourri l'enfance de Caise. L'espace de quelques secondes, il le sut. Elle était devenue tous les héros mauvais garçons. Sonny Mao dans les vieux vidéos de la show, ou Mickey Chiba, toute une lignée, qui remontait jusqu'à Lee et Eastwood. Elle avait la démarche qui collait avec son élocution. La dite trois djennes, Marie-France Tessier-Hachepoul, s'était creusée un terrier avec la surface interne de la coque de Lumiérante, taillant dans le dédale de murs qui constituait son héritage. Elle vivait dans une pièce unique, si vaste et profonde, que ses extrémités disparaissaient à l'horizon renversé, le sol étant caché par la courbure du fuseau. Le plafond était bas et irrégulier, traité dans le même revêtement en imitation pierre qui recouvrait les corridors. Ça et là, en travers du sol, s'élevaient à hauteur de taille des fragments de murs effondrés, souvenirs du labyrinthe. Il y avait un bassin rectangulaire turquoise, creusé au centre, à 10 mètres du pied de l'escalier, ses projecteurs immergés, constituant la seule source de lumière de l'appartement. C'est du moins ce qu'il parut à Caise lorsque Molly eut descendu la dernière marche. La piscine envoyait des taches lumineuses ondulantes au plafond. Il l'attendait près du bassin. Il savait depuis le début que les réflexes de cette fille avaient été améliorés, accéléré par la neurochirurgie en vue du combat, mais il n'en avait jamais fait directement l'expérience via une liaison systime. L'effet rappelait une bande magnétique passée à demi-vitesse, une danse lente et délibérée, chorégraphiée par l'instinct de tuer et des années d'exercice. Elle parut les embrasser tous les trois d'un seul coup d'œil, le garçon appuyé contre le plongeoir de la piscine, la fille souriante derrière son verre de vin, et le cadavre d'Hachepoul, l'orbite gauche béante, noire et remplie de pourriture, surmontant un sourire de bienvenue. Il portait sa robe de chambre marron. Il avait les dents très blanches. Le garçon plongea, mince, bronzé, ligne parfaite. La grenade quitta la main de Molly avant que ses doigts n'aient fendu l'eau. Caise reconnut le type de l'objet lorsqu'il atteignit la surface. Un noyau d'explosif puissant, enveloppé dans 10 mètres de fil d'acier mince et cassant. Son flécheur siffla lorsqu'elle expédia une salve de traits explosifs dans le visage et la poitrine d'Hachepoul qui disparut, volute de fumée s'élevant du dossier perforé du fauteuil de bain émaillé blanc. Le canon pivota en direction de trois djennes au moment où détonnait la grenade, pièce montée symétrique d'eau qui s'éleva en gerbe puis se brisa pour retomber, mais l'erreur était déjà faite. Hideo n'eut alors même pas à la toucher. Sa jambe se déroba sous elle. « Oh, Garvey !» hurla Caise. « T'en a fallu du temps, » dit Riviera, tandis qu'il lui fouillait les poches. Les mains de Molly disparaissaient à hauteur du poignet dans une sphère noire mate de la taille d'une boule de bowling. « J'ai été le témoin d'un assassinat multiple à Ankara, » dit-il, tandis que ses doigts retiraient divers objets de son blouson, un boulot à la grenade, dans une piscine. L'explosion avait paru très faible, mais tous étaient morts sur le coup, par choc hydrostatique. Caise la sentit qui essayait de bouger les doigts. Le matériau de la boule semblait ne pas offrir plus de résistance que de la mousse alvéolée. La douleur de sa jambe était atroce, insupportable. Un voile de moire rouge ondulait devant sa vision. « Je ne les bougerais pas si j'étais toi. » L'intérieur de la balle sembla se resserrer légèrement. « C'est un gadget sexuel acheté par Jane à Berlin, Agite-les suffisamment, et il te les réduit en bouillie. C'est une variante du matériau dont est fait ce revêtement de sol. Un truc en rapport avec les molécules, je suppose. Tu as mal ? Elle gémit. T'as l'air de t'être blessé à la jambe. Ses doigts trouvèrent un cachet plat de drogue dans la poche arrière gauche de son jean. Eh bien, dernier souvenir d'Ali, et juste au bon moment. La purée fluctuante de sang se mit à tourbillonner. Idéo, dit une voix, celle d'une femme. Elle est en train de perdre conscience. File-lui donc quelque chose, pour ça et pour la douleur. Elle est vraiment saisissante, tu ne trouves pas, Peter ? Sévère, c'est une mode, là où elle vient ? Main fraîche, geste sans hâte, assuré comme ceux d'un chirurgien. La piqûre d'une aiguille. « Je ne pourrais rien dire, » répondit Riviera. « Je n'ai jamais vu sa région d'origine. Ils sont venus me chercher en Turquie. La Connerbe, oui. Nous avons des intérêts là-bas. Et une fois, nous y avons envoyé Idéo. Par ma faute, à vrai dire. J'avais laissé pénétrer quelqu'un, un cambrioleur. Il avait piqué le terminal de famille. » Elle rit. « Faut dire que je lui avais facilité la tâche. Rien que pour embêter les autres. C'était un mignon garçon, mon cambrioleur. » Est-ce qu'elle s'éveille, Idéo ? Ne lui en faudrait-il pas plus ? Plus elle mourrait, dit une troisième voix. La purée de sang vira au noir. La musique revint, corps et piano, Munich de danse. Caise, décroche. L'image rémanente des mots clignotés dansait encore sur les yeux et le fond plissé de Maelkoum lorsque Caise retira ses trodes. T'as crié, Mac, tout à l'heure ? Molly, fit-il, la gorge sèche. Elle a été blessée. Il tira une bouteille de plastique souple, blanc, du bord du filet entigé, et s'aspira une goulée d'eau douce. J'aime pas du tout la tournure que prend toute cette embrouille. Le petit moniteur craie s'alluma. Le finnois sur un fond de débris tordu perforé. Moi non plus, on a un problème. Maelkoum se hissa par-dessus la tête de Caise, pivota, et lui regarda par-dessus l'épaule. « Allons bon. C'est qui encore ce Mac, Caise ?»« Ce n'est qu'une image, Maelkoum, » dit Caise d'une voix lasse. « Un type que je connais dans la Connerbe. Mais c'est Medivher qui parle. L'image est censée nous éviter le dépaysement. »« Connerie, » dit le finnois. « Comme j'ai déjà dit à Molly, ce ne sont pas des masques. J'en ai besoin pour vous parler, car je ne possède pas ce que vous pourriez considérer comme une personnalité, enfin si peu. » Mais tout ça, Caise, c'est pissé dans un violon, vu que, comme je viens de le dire, on a un problème. Eh bien, exprime-toi, le muet, l'enjoignit Maelkoum. Il y a la jambe de Molly qui nous lâche, pour commencer. Peut plus marcher. D'après le plan initial, elle était censée entrer, écarter Peter du passage, tirer de trois gènes le mot magique, monter à la tête et le prononcer. À présent, elle a tout foutu par terre. Alors, vous deux, « je veux que vous entriez la récupérer. » Caise fixa le visage sur l'écran. « Nous ? Qui d'autre, à ton avis ?»« Aérol, » dit Caise. « Le gars sur le Babylon Rocker, le pote à Maelkoum ?»« Non, il faut que ce soit vous. »« Quelqu'un qui comprenne Molly, qui comprenne Riviera, et Maelkoum pour le muscle. »« T'oublies peut-être que je suis au milieu d'une petite passe, là, tu te souviens ? La raison pour laquelle tu m'as trimballé ici ?»« Caise, écoute voir. » Question de temps, ça devient juste, très juste, alors écoute. La véritable liaison entre ta console et Lumirante s'opère par une transmission en bande latérale par l'intermédiaire du système de navigation du Garvey. Tu vas conduire le Garvey dans un appontement très privé que je vais t'indiquer. Le virus chinois a totalement pénétré la trame Osaka. Il n'y a plus rien d'autre que le virus dans le Osaka désormais. Quand tu aborderas, le virus sera interfacé avec le système de surveillance de Lumirante. Et nous interromprons l'émission en bande latérale. Tu prendras ta console, le trait plat et Maelkoum. Ensuite, vous me retrouvez trois gènes, lui estorquez le mot, tuer Riviera et récupérer la clé de Molly. Tu pourras à tout moment revoir le programme en branchant ta console sur le réseau de Lumirante. Je le piloterai pour toi. Il y a une fiche standard à la base de la tête, derrière un panneau orné de 5 zircons. Tuer Riviera ? Tuez-le. Caise cligna des yeux à la représentation du finnois. Il sentit Maelkoum lui poser la main sur l'épaule. « Et t'as oublié un détail ? Il sentait monter sa rage comme une espèce d'allégresse. « T'as foutu la merde. T'as pété les commandes des grappins quand t'as fait sauter Armitage. Le Haniwa nous tient bel et bien arrimés. Armitage a cramé le second Osaka et les unités centrales sont parties avec la passerelle. Dak ?» Le Finnois opina. « Alors, on est coincé ici. Et ça signifie que t'es baisé, mec. » Il avait envie de rigoler, mais le rire s'étrangla dans sa gorge. « Hé, Kez, Mac !» remorqua doucement Maël Koum. « Le Garvet est un remorqueur. » « C'est exact, dit le Finnois, et il sourit. « Tu t'es bien marré dans le grand monde, là-dehors ?» demanda le construct, dès que Kaz se fut rebranché. « Je parierais que c'est le muet d'hiver qui réclamait le plaisir de... »« Bah ouais, t'as gagné. À part ça, le Kuang tourne bien ?»« Au poil. Le vrai tueur, ce virus. »« Impec. On a quelques bricoles, mais on bosse dessus. »« Peut-être que si tu me mettais au courant ?»« Pas le temps. Bon, d'accord, laisse tomber après tout. » « Je suis jamais qu'un macabre, hein ?»« Fais pas chier, dit Kez, et il décrocha, coupant le tréplat au milieu de son rire, à vous faire crisser les ongles. » Elle rêvait d'un état impliquant un minimum de conscience individuelle, était en train d'expliquer trois gènes. Elle tenait dans sa main en coupe un grand camé qu'elle tendit vers Molly. Le profit, gravé, ressemblait beaucoup au sien. Le pur plaisir animal. Je crois qu'elle voyait l'évolution du cerveau antérieur comme une sorte de déviation. Elle reprit la broche pour l'étudier de plus près, l'inclinant pour la faire jouer avec la lumière sous différents angles. Il n'y aurait que dans certains états de tension qu'un individu, un membre du clan, devrait endurer les aspects les plus douloureux de la conscience de soi. Molly hocha la tête. Kez se rappela l'injection. Que lui avait-il donc donné? La douleur était toujours là, mais elle ne passait plus que comme un nœud serré d'impressions embrouillées. Vert de néon qui se tortillait dans sa cuisse, contact de la toile, une odeur de krill en train de frire. L'esprit de Kez se rétracta. S'il évitait de se polariser dessus, les impressions se chevauchaient, devenaient l'équivalent sensoriel du bruit blanc. Si l'injection était capable d'engendrer cet effet sur le système nerveux de Molly, quel pouvait être présentement son état d'esprit? Sa vision était anormalement claire et nette, plus aiguë même que d'habitude. Les choses semblaient vibrer, objets et personnes accordés, chacun sur une fréquence légèrement différente. Ses mains, toujours bloquées dans la balle noire, reposaient sur son ventre. Elle était assise dans une des chaises longues de la piscine, sa jambe brisée reposant tendue devant elle sur un coussin en cuir de chameau. Trois djennes étaient assises en face sur un autre coussin, engoncées dans une djellaba trop grande en laine écrue. Elle avait l'air très jeune. « Jusqu'où serait-il allé ?» demanda Molly. « Pour avoir sa picouse. » Trois djennes haussa les épaules sous les plis de la lourde tunique pâle et rejeta de ses yeux une mèche de cheveux sombres. « Il m'a dit à quel moment vous laisser entrer, » dit-elle, « mais sans m'indiquer pourquoi. » Tout devait demeurer un mystère. « Nous auriez-vous fait du mal ?» Kez sentit Molly hésiter. « Je l'aurais tué. J'aurais essayé de tuer le ninja. Ensuite, j'étais censé parler avec vous. Pourquoi ?» demanda Trois Djennes, remettant le camé dans une des poches intérieures de sa djellaba. « Pourquoi oui ? Et de quoi ?» Molly parut étudier les pommettes hautes et délicates, la bouche large, le nez fin, aquilin. Trois djennes avaient les yeux noirs, curieusement opaques. « Parce que je le hais, » dit-elle enfin, « et le pourquoi de tout ceci tient tout simplement à la façon dont je suis câblé, à ce qu'il est et ce que je suis. » « Et à son numéro de cirque, » remarqua Trois djennes. « J'ai vu son numéro. » Molly acquiesça. « Mais idéaux, parce que ce sont les plus redoutables, parce que l'un d'eux a tué l'un de mes partenaires un jour. » Trois djennes devint très grave. Elle haussa les sourcils. « Parce qu'il fallait que je voie, » dit enfin Molly. « Et ensuite, nous aurions parlé, vous et moi, comme maintenant ?» Ses cheveux noirs étaient très raides, séparés par une raie médiane et retenus en arrière par un nœud d'argent terne. « Allons-nous parler à présent ?»« ôtez ça d'abord, fit Molly, en élevant ses mains captives. Vous avez tué mon père, observa Troy Jane, sans le moindre changement de ton. Je surveillais les moniteurs, les yeux de ma mère, comme il les appelait. Il a tué la poupée, elle vous ressemblait. Il aimait les grands gestes, dit-elle, et voilà que Riviera apparut à côté d'elle, irradiant la drogue avec cette tenue de bagnard en crépon qu'il portait déjà sur le jardin du toit de leur hôtel. « Alors, on a fait connaissance ? C'est une fille intéressante, n'est-ce pas ?»« C'est ce que je me suis dit dès que je l'ai vue. » Il passa devant Troy Jane. « Ça ne va pas marcher, tu sais. »« Crois-tu, Peter ?» Molly parvint à sourire. « Muediver ne sera pas le premier à avoir commis cette même erreur, me sous-estimer. » Il traversa le bord carrelé de la piscine et gagna une table blanche émaillée pour se servir de l'eau minérale dans un lourd verre à cocktail en cristal. « Il m'a parlé, Molly. Je suppose qu'il a parlé à chacun d'entre nous, à toi et à Kez, et à ce qui peut rester d'Armitage. Il ne peut pas réellement nous comprendre, tu sais. » Il dispose bien de ses profils, mais ce ne sont jamais que des statistiques. T'es peut-être un animal statistique, mon chou, et Kez n'est certainement rien d'autre. Mais moi, je possède en revanche une qualité que sa nature même rend inquantifiable. Il but. « Et quelle est-elle au juste, Peter ?» demanda Molly d'une voix atone. Riviera était radieux. « La perversité. » Il rejoignit les deux femmes, faisant osciller le restant d'eau dans le fond du lourd cylindre de cristal de roche profondément gravé, comme s'il prenait plaisir à en goûter la masse. Une jouissance de l'acte gratuit, et je viens de prendre une décision, Molly. Une décision entièrement gratuite. Elle attendit, le regard levé sur lui. « Oh, Peter !» fit Troy Jane, avec ce genre de douce exaspération réservée d'ordinaire aux enfants. « Pas de mots pour toi, Molly. Il m'a mis au courant, vois-tu. Troy Jane connaît le code, bien entendu, mais tu ne l'auras pas. Muediver non plus. Ma Jane est une fille ambitieuse à sa manière, perverse. » Il sourit à nouveau. Elle a des visées sur l'empire familial et un couple d'intelligence artificielle dérangée, aussi tordu que puisse être le concept, ne ferait que les entraver. « Bon, là-dessus... » apparaît son Riviera pour la tirer d'affaire, vois-tu. Et Peter te dit, bouge pas. Joue les disques de swing préférés de papa. Laisse donc Peter engager un orchestre assorti, un parterre de danseurs, organiser un réveil d'entre les morts pour le roi Ashpool. Il but les dernières gouttes d'eau minérale. Non, tu ferais pas ça, papa, tu le ferais pas, maintenant que Peter est revenu. Et puis... le visage rose du plaisir engendré par la cocaïne et la mépéridine, Peter projeta de toutes ses forces le verre dans l'implant de la lentille gauche de Molly, pulvérisant sa vision en éclats de lumière et de sang. Maël Koum était à plat ventre contre le plafond de la cabine lorsque Kez ôta l'étrode. Une corde de nylon passée autour de sa taille était arrimée au panneau de chaque côté, à l'aide de mousquetons amortisseurs et de ventouses de caoutchouc gris. Il avait ôté sa chemise et travaillait sur un panneau central, à l'aide d'une clé anti-couple à l'aspect pâteau, avec ses gros ressorts qui vibraient, tandis qu'il dévissait un nouveau boulon hexagonal. Les poussées G faisaient gémir et cliqueter le Marcus Garvey. « Le muet nous a fait accoster », annonça le sionite, en fourrant le boulon dans une poche en toile à sa ceinture. « Maël Koum pilote l'atterrissage, au cas qu'on aurait besoin de matos pour le boulot. Tu te planques du matériel là-haut ?» Kez se dévissa le cou et contempla le jeu des muscles noueux sous le dos noir. « Celui-ci, dit Maël Koum en dégageant un long paquet emballé de poli noir de l'espace ménager derrière le panneau. Il replaça ce dernier, le maintenant en place avec un seul boulon. Le paquet noir avait dérivé vers l'arrière avant qu'il y ait terminé. D'un coup de pouce, il ouvrit les valves sur les ventouses grises de son harnais de travail pour se libérer et récupérer l'objet qu'il avait retiré. Il redescendit d'un coup de pied, glissant au-dessus de ses instruments. Un diagramme d'accostage vert palpitait sur l'écran central et s'accrocha au cadre du filet antigé de caisse. Il se rétablit, puis fendit le ruban de son paquet d'un ongle de pouce épais et craquelé. Un type en Chine dit que la vérité sort de ça, dit-il en déballant une antique carabine automatique Remington, luisante de graisse, le canoncier à quelques centimètres de la culasse. La crosse d'épaule avait été entièrement démontée et remplacée par une crosse de pistolet en bois entortillée de rubans toileux noirs. L'arme sentait la sueur et la ganja. « C'est le seul que t'as ?»« Sûr, Mac, » dit-il en essuyant d'une main la graisse sur le canon noir avec un chiffon rouge. L'autre, tenant la crosse avec le sac de poli noir roulé autour. « Moi et moi, on est la marine Rastafari. Tu peux me croire. » Kez fit glisser les trottes de son front. Il n'avait pas pris la peine de remettre le cathéter texan. Il pourrait toujours aller pisser un bon coup à la villa lumiérante, même si ce devait être pour la dernière fois. Il se rebrancha. « Eh !» dit le construct, « ce vieux Peter est complètement tordu, non ?» Il semblait désormais faire partie intégrante de la glace Tessier-Hachepoul. Les arches d'émeraude s'étaient élargies, fondues, pour devenir une masse compacte. Le vert prédominait dans les plans du programme chinois qui les entourait de toutes parts. « On approche, Dixie ?»« Tout près. Tu vas pas tarder à rentrer en jeu. »« Écoute, Dix. » Medivher dit que le Kuang a complètement investi notre Osaka. « Il va falloir que je vous débranche tous les deux du circuit, toi et ma console, que je vous trimballe dans Lumiérante pour vous y reconnecter sur le programme de surveillance installé là-bas, d'après Medivher. » À l'en croire, le virus Kuang aurait tout envahi là-bas. Ensuite, seulement, on lance notre passe de l'intérieur à travers le réseau Lumiérante. « Superbe !» dit le Tréplat. « J'ai jamais aimé faire simple quand je pouvais faire compliqué. » Kez bascula. Dans son obscurité, synesthésie bouillante où la douleur avait un goût de fer rouillé, une odeur de melon, des ailes de papillon lui effleurant la joue. Elle était inconsciente et ses rêves lui étaient inaccessibles. Lorsque la puce optique s'illumina, les pavés alphanumériques étaient entourés d'un halo, bordés chacun d'une faible auréole pourpre. 07 29 40. Je suis très mécontente de tout ceci, Peter. La voix de Troy Djen semblait provenir du fond d'un grand vide creux. Molly pouvait donc l'entendre, se dit-il. Puis il se corrigea. L'unité de SimSteam était intacte et toujours en place. Il pouvait sentir le boîtier lui presser les côtes. Ses oreilles enregistraient les vibrations de la voix de l'autre fille. Riviera lança une réplique brève, indistincte. « Mais pas moi, rétorqua-t-elle, et ce n'est pas drôle du tout. Ideo va faire descendre une unité médicale de la salle de réanimation, mais il nous faudrait un chirurgien. » Il y eut un silence. Très distinctement, Kez entendait clapoter l'eau contre le bord de la piscine. « Qu'est-ce que j'étais en train de lui raconter avant que je revienne ?» Riviera était tout proche à présent. « Je lui parlais de ma mère. C'est elle qui avait demandé. Je crois qu'elle était en état de choc, sans parler de l'injection de Ideo. Pourquoi lui as-tu fait ça ?»« Je voulais voir s'il se casserait. Eh bien, l'un des deux a cassé. Quand elle s'en sortira, si elle s'en sort, on verra quelle est la couleur de ses yeux. » »« Elle est extrêmement dangereuse. Trop dangereuse. Si je n'avais pas été ici pour la distraire, pour lui balancer Hachepoul et mon propre Ideo en guise d'appât pour sa petite bombe, où serais-tu en ce moment, hein ? En son pouvoir ?»« Non, » dit Troy Djen, « il y avait toujours Ideo. Je ne crois pas que tu comprennes tout à fait son rôle. Elle, si, à l'évidence. Un verre ? Du vin, du blanc. » Kez décrocha. Maelkoum était penché au-dessus des commandes du Garvey, tapant les instructions pour une séquence d'accostage. L'écran central du module affichait un carré rouge immobile qui figurait l'appontement de Lumiérante. Le Garvey était un carré plus grand, vert, dont la taille se réduisait progressivement, en oscillant d'un côté à l'autre en réponse aux commandes de Maelkoum. Sur la gauche, un écran plus petit affichait en graphisme, fil de fer, les silhouettes du Garvey et du Haniwa en train d'approcher la courbe du fuseau. « On a une heure devant nous, mec, » annonça Kez, en détachant du Osaka le ruban de fibre optique. les batteries de secours de sa console avaient une autonomie de 90 minutes, mais le construct du tréplat allait engendrer une consommation supplémentaire. Il travaillait vite, mécaniquement, attachant à l'aide de micropores le construct à l'arrière de sa console Ono Sendai. La ceinture porte-outil de Maelcom dériva devant lui. Il la saisit, en détacha deux mousquetons amortisseurs avec leurs ventouses grises rectangulaires et arrima bout à bout leurs deux crochets. Puis il plaqua les ventouses contre les flancs du boîtier et bascula le levier qui créait la succion. Ainsi, muni de sa console et du construct, soutenu par cette courroie improvisée suspendue devant lui, il se glissa tant bien que mal dans son blouson de cuir, puis inspecta le contenu de ses poches. Le passeport que lui avait donné Armitage, la carte mémoire au même nom, la carte de crédit qu'on lui avait délivrée à son entrée en zone libre, deux dermes de bêta-phénéthylamine qu'il avait acheté à Bruce, un rouleau de nouveaux yens, un demi-paquet de Ye-E-Yuan et le shuriken, il lança la puce de zone libre par-dessus son épaule. L'entendit heurter la coque de l'aérateur russe. Il s'apprêtait à faire de même avec l'étoile d'acier, mais la carte de crédit, après un rebond, vint lui érafler l'arrière du crâne, poursuivit son vol en tourbillonnant, heurta le plafond et, tournoyant toujours, vint frôler l'épaule gauche de Maelcom. Le sionite quitta des yeux ses commandes de pilotage pour le fusiller du regard. Kez regarda le shuriken, puis le renfourna dans sa poche de blouson. Il entendit la doublure se déchirer. « T'as raté le muet, Mac !» dit Maelcom. « Le muet a dit qu'il allait brouiller le système de sécurité pour le Garvey. Le Garvey va aborder comme si c'était n'importe quel autre navire attendu en provenance de Babylone. Le muet émet les codes pour nous. On passe les scaphandres ?» « Trop lourd !» Maelcom haussa les épaules. « Reste dans ton filet jusqu'à ce que je te dise. » Il introduisit une ultime séquence dans le module, puis empoigna les poignées roses usées de part et d'autre de la planche de navigation. Kez vit le carré vert se réduire des tout derniers millimètres pour venir se superposer au rouge. Sur l'écran plus petit, le Haniwa abaissa sa proue pour éviter la courbure du fuseau et se fit happer. Le Garvey était encore accroché sous sa coque comme un vulgaire conteneur. Le remorqueur résonna, vibra. Deux bras stylisés jaillirent pour agripper la mince coque en forme de guêpe. Sur l'écran, lumiérante, extrudait un timide rectangle jaune qui s'incurva, passant devant le Haniwa en direction du Garvey. Il y eut un raclement en provenance de la proue, par-delà les feuilles tremblantes de calfatage. « Tension, Mac !» lança Maelcom. « Gaffe à la gravité !» Une douzaine de petits objets s'écrasèrent sur le sol de la cabine simultanément, comme attirés là par un aimant. Kez hoqueta en sentant ses organes internes se réarranger de manière bizarre. La console et le construct lui étaient douloureusement retombés sur le ventre. Ils étaient désormais attachés au fuseau et tournaient maintenant avec lui. Maelcom étendit les bras, fléchit les épaules pour les soulager, puis retira de ses cheveux le filet pourpre, libérant ses tresses d'un mouvement de tête. « Allez, viens, Mac, puisque tu dis que le temps est précieux !»